Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un hommage à venir pour les personnes mortes sur le chemin de l'exil, une interview pour annoncer la 6e édition de Rennes en jeu ce week-end, il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage, le 5e épisode de Dal Kennedy, cette série de portraits radiophoniques d'habitants de Villejean, deux recommandations de sortie et puis le 3e épisode d'un podcast sur la parentalité. Bienvenue dans La Reine. Tous les jours, on débute l'émission avec une info du jour que je choisis pour vous dans l'océan de l'actualité locale. On prend un tout petit peu d'avance aujourd'hui pour annoncer un hommage aux victimes de l'exil. Commémoraction, c'est le nom de l'événement porté cette année par Alarme Faune Rennes. Et ça aura lieu samedi 3 février à 17h sur la place Sainte-Anne ici à Rennes. Alarme Faune, c'est en fait le nom d'une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes exilées en situation de détresse pendant une traversée maritime. Un réseau bénévoles qui existent grâce à l'engagement de 200 personnes à travers 12 pays au nord et au sud de la Méditerranée et qui a donc une antenne à Rennes au même titre que SOS Méditerranée. 10 ans ont passé depuis le désastre de Talajal dans l'enclave espagnole de Ceuta. Le 6 février 2014, plus de 200 personnes, parties des côtes marocaines, avaient tenté d'accéder à la nage à ce territoire, repoussé par la Guardia Civile avec un bilan terrible, 15 corps retrouvés côté espagnol et des dizaines d'autres portés disparus. Depuis cette date, elle a été retenue comme journée mondiale de lutte contre les morts aux frontières et la journée de samedi, elle aura aussi pour but de dénoncer la politique migratoire actuelle. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview. Julien Alain, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes président depuis pas très longtemps, non, c'est ça, c'est assez nouveau.
Tout à fait, j'ai pris le poste cette année.
Donc président de la Toile Ludique à Rennes, association qui porte l'événement Rennes en jeu. Ça se passe au couvent des Jacobins à Rennes, samedi 3 et dimanche 4 février. Un événement qui cherche à démocratiser encore plus le jeu, qu'il soit engagé, qu'il s'agisse de jeux éducatifs, de rôles, de figurines ou encore de cartes à collectionner. Rennes en jeu, c'est donc le temps fort de cette association, qui a été créé vraiment pour ça. Il se passe quand même d'autres choses dans le reste de l'année puisqu'à chaque fois vous planchez sur des prix et qu'il y a une semaine événementielle un tout petit peu avant Rennes en jeu.
Oui, tout à fait. Alors la semaine, c'était une semaine au départ, maintenant on est à les semaines en jeu, tellement en fait
il y en a ça trois,
s'est allé,
c'est ça,
on est quasiment à trois. Et même après le festival, il y a le jeu de paume, donc un des partenaires qui fait une semaine en jeu aussi juste la semaine d'après. Donc si vous en avez encore envie de jouer, il y aura de quoi faire. Et ce soir, vous pouvez d'ailleurs aller directement chez nos partenaires aussi. Encore, c'est la dernière soirée avant le festival de demain.
On peut les citer. Il se passe des choses à Chantepie, en ludothèque, à Mordel, à la bibliothèque du Triangle à Rennes, à la maison de quartier de Villejean. Et puis, bibliothèque de Clotho-Bréquigny pour Rennes avec pas mal de soirées-jeux et aussi un atelier de fabrication de jeux jusqu'à 19h pour Chantepie. Donc ça, ce sont les semaines en jeu. Vous êtes combien dans votre association aujourd'hui? Les équipes, elles ont un peu grossi.
Alors on est un peu plus de 200 en fait en tout, de personnes différentes, voilà. Donc c'est une belle équipe et donc ça a commencé déjà dès ce matin là pour monter tout ça.
Donc dans l'association de la Toile Ludique qui a lancé ce festival Rennes en jeu, c'était en 2017. Là on s'apprête à vivre la 6e édition, un événement qui a pris de l'ampleur au fil des années, qui a changé de lieu pour avoir un peu plus grand.
Oui, bah oui, forcément, victime de son succès. Au départ, qu'on a commencé il y a maintenant 7 ans, parce qu'en fait c'est notre 5e édition, mais il y a eu les deux années maudites du Covid, comme plein d'événements, voilà. On a subi ça, qui ont été annulés, et les débuts, les deux premières années, on a été en fait au Almarteneau, donc on s'était qu'une seule journée, parce qu'on ne peut pas faire le samedi, il y a le Sacro-Saint-Marché, on ne voudrait pas non plus l'enlever, nous aussi on aime bien y aller. Donc voilà, on est au couvent des Jacobins depuis, donc ce sera notre 3e édition au couvent.
Avec à peu près 8000 entrées qui sont comptabilisées sur l'événement par jour ou sur l'ensemble du week-end. On se retrouve donc juste avant cette nouvelle édition, on le redit, dans un territoire Loire, la région de Rennes qui est quand même particulièrement riche en associations, en boutiques, en bars à jeux, en créateurs, et votre objectif principal c'est justement de se faire rencontrer tout ce monde-là qui a plutôt tendance à travailler un peu dans son coin le reste de l'année.
Alors après ça reste un milieu, le jeu de société, qui est quand même vraiment social, donc vraiment le côté de se rencontrer, les gens sont vraiment habitués à se retrouver sur des événements, donc ça reste quand même quelque chose de pas très cloisonné. Mais en effet, une de nos activités, c'est de l'orga... Enfin, il y a deux choses, c'est l'activité faire l'événement, le grand festival de ce week-end, et aider un peu à se fédérer le milieu. C'est pour ça aussi que, vous en avez parlé au début, on a en fait le prix de l'animation, qui en fait est des rencontres de ces partenaires-là tout au long de l'année, se retrouvent dans des soirées pour parler de leur coup de cœur, qu'est-ce qu'ils ont bien aimé, échanger en fait sur aussi ce qui a plu à leur public, parce que ce sont qu'en fait des partenaires qui font jouer, donc les ludothèques, les associations, les bars à jeux, les maisons de quartier, les boutiques, et qui vont comme ça élire en fait jusqu'à là, ces derniers temps, on a eu en fait les résultats, qu'est-ce qui a le plus plu dans le secteur comme jeu, et vous pourrez y jouer sur le festival.
Et donc les prix seront remis pendant l'événement, est-ce que parmi ces acteurs ce sont surtout des structures qui sont installées depuis longtemps ou continue à y avoir des nouveaux arrivants
Il y a des nouveaux arrivants, mais c'est donc nous on est ouvert de toute façon à tous ceux qui font du jeu. Après il y a quand même des gens qui sont là depuis quelques temps, qui se connaissent justement sans nous, et je pense qu'on a aussi un peu aidé à ce que ça se fédère encore un peu plus, est-ce que les gens se rencontrent, se croisent, et donc vous pourrez comme ça jouer autant à du jeu plus pour enfants comme Turbo Kids qui a été primé il y a deux semaines. En fait ça n'a pas primé pendant le festival, c'est primé un peu en amont, parce que comme ça nous permet pendant les semaines en jeu justement de le faire jouer chez les partenaires. Donc en fait il y en a comme ça plusieurs catégories selon le type de jeu, parce que c'est la particularité aussi du festival, c'est qu'en fait il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous venez plus en famille, si vous venez entre amis, plutôt du jeu d'ambiance, si vous aimez bien vous poser sur le côté stratégie un peu brise neurone ou autre, il y a vraiment pour tous les goûts. C'est pour ça que les catégories du prix vont de familial à expert, avec jeu d'ambiance. On a pour tous.
Ouais, puis ce qui est chouette sur l'événement, c'est qu'il y aura donc vos équipes pour aussi accompagner le public, parce que sur la découverte d'un nouveau jeu, ça peut être un peu impressionnant d'intégrer parfois des règles plus ou moins complexes sur les jeux. Donc vos équipes seront sur place samedi 3 et dimanche 4 février au couvent des Jacobins. On est donc en cœur de ville à Rennes. On va détailler un peu la programmation, d'abord avec cette nouveauté, des conférences qui sont organisées pour essayer de cogiter un peu et prendre du recul en fait, plutôt que juste jouer, aussi réfléchir sur le milieu du jeu.
Tout à fait, c'est la nouveauté principale de cette année, même si tout évolue un petit peu à chaque fois et donc tout s'améliore. La grande nouveauté, c'est cette nouvelle salle, en fait, une salle donc d'événements et conférences. Donc ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on a fait dans la même salle, selon les horaires, des moments très justement grand public avec des quiz. Donc avec des quiz plutôt famille-enfant le matin, des quiz plutôt sur des thématiques l'après-midi, et entrecoupé aussi de conférences. Donc on a là qui vont être plutôt sur le côté plus réflexif sur le média, plus sur le médium aussi, et avec donc des tables rondes ou une histoire du jeu de société, donc du néolithique à nos jours, qui couvre le festival le samedi matin. C'est demain.
Et il faut mémoriser un peu les dates, hein, sinon on va avoir des problèmes.
Oups, je suis pas du tout dans les temps, vite. Non, on est bon. Et on va voir comme ça une table ronde d'auteurs sur la création, samedi après-midi, qui vont échanger sur d'où viennent leurs idées, tout ça, quel est leur processus créatif. On va avoir là une table ronde plus autour de l'édition engagée, donc par rapport à la façon de faire les jeux ou par rapport au public qu'on vise, etc.
Au message aussi peut-être qu'on fait.
C'est
passer.
Ça, par rapport au message. Et donc là, vraiment une table ronde avec des éditeurs. Et on a aussi une table ronde avec le côté la plus éducation populaire, avec des ludothèques et des associations qui font jouer. Donc là, par rapport en fait l'acte de jouer et pas l'objet jeu plus l'acte de jouer.
Ces conférences, elles seront animé avec des éditeurs, des auteurs, des ludothécaires. C'est à 11h30 et à 15h le samedi et le dimanche, et le détail est à retrouver en ligne sur le site rennesenjeux.fr. Un espace sera aussi dédié lors du festival aux groupements locaux d'auteurs de jeux. Vous faites venir des gens d'autres villes que de Rennes. On le précise, vous êtes vous-même créateur de jeux. On avait déjà présenté certaines de vos créations il y a pile un an dans un reportage avec les jeux Gravity, Superstar, Titan Race ou encore Dungeon Academy. Pour bien comprendre, chez les créateurs de jeux, quelques-uns plutôt rares en vivent. En tout cas, tout le monde est passionné, mais il y a plus de passionnés que de gens qui arrivent à en vivre.
Et oui, c'est comme dans tous les secteurs culturels. En fait, beaucoup de gens créent, font des choses, et tant mieux. Hein, mais en effet, ceux qui en vivent sont peu nombreux. Et comme dans tous les milieux, ceux qui en vivent, vivent en fait sur un ou deux gros succès. Il y a une différence énorme en fait entre des jeux qui marchent et des jeux qui en fait portent vraiment un auteur. Mais c'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans tous les milieux. Et en effet, on a donc le groupement local, c'est le Graal, le groupement rennais des auteurs ludiques, qui sera sur place, mais ainsi que d'autres groupements. En fait, la particularité du festival, c'est qu'on s'appuie pour l'espace auteur sur des personnes qui viennent de Nantes, de Caen et d'autres villes. Et donc à chaque fois, c'est un collectif local, quelques auteurs qui viennent représenter du coup leur ville, et on va pouvoir comme ça présenter leur prototype de jeu. Donc c'est des jeux encore en recherche, des jeux qui sont pas finis.
Ce qui peut être long, j'imagine, de vraiment aboutir à sa version.
C'est très aléatoire. Finale. Il peut y avoir des choses où il y a un déclic et ça se fait très simplement, parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'est passé de réflexion en arrière-plan, on va dire, comme le côté créatif où on peut en fait avoir des choses qui juste s'emboîtent et hop, c'est magique. Mais la plupart du temps, quand même, l'idée nous paraît fantastique, on l'essaye, et là c'est la durée réalité, il y a plein de choses à changer, retester, refaire, donc c'est surtout beaucoup de tests, beaucoup de retours, et c'est pour ça que le groupement rennais des auteurs ludiques là se retrouve tous les mercredis en fait dans des lieux sur Rennes, soit au bar L'Heure du Jeu, soit au bar La Reine de Cœur, soit en fait à la maison de quartier La Touche, et donc c'est ouvert à tous ceux qui veulent tester ou faire tester des prototypes.
En plus des groupements d'auteurs, de créateurs de jeux, on retrouvera aussi des indépendants qui seront exposés sur le festival. Et alors on a parlé du Graal, le groupement rennais des auteurs ludiques qui a créé, ou en tout cas participé à la création d'un jeu spécialement pour l'événement, qui sera vendu sur place, édité par l'association de la Toile Ludique, un jeu de cartes, c'est ça ?
Tout à fait, c'est un jeu de cartes en fait en soutien au festival, donc il est exclusif, il sera vendu exclusivement pendant le temps du festival. C'est une sorte de game jam en fait, de concours interne que se sont fait les auteurs, les créateurs locaux, en se donnant des contraintes thématiques et de matériel, et en fait vont avoir eu comme ça, je sais plus, c'était deux mois, un mois, et au bout de ce temps-là, se sont fait une soirée pour pouvoir tester tous les jeux, et ont voté en interne, donc quel était le plus intéressant pour eux, en sachant que il faut que ce soit un jeu assez grand public quand même pour le festival. Et donc on a élu ce jeu-là, il a été développé pendant les mois qui ont suivi par l'auteur et le groupement, et un illustrateur a travaillé bénévolement dessus. Donc l'auteur et l'illustrateur sont crédités bien sûr, et pourront peut-être le faire vivre une autre manière plus tard, mais là il est en tout cas bénévole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent qui leur va dans leur poche, c'est vraiment du soutien au festival. Donc si vous l'achetez, c'est exclusif, c'est que pendant ce week-end, et c'est donc 10€.
Il faut le titre, donner le titre quand même de ce jeu.
Oui, pardon. Là c'est les trois mousquetaires, très beau jeu de mots, vous en conviendrez.
Entre les mouches et les mousquetaires.
Et je pense à ça, petite précision pour les auditeurs, en fait on n'est vraiment pas un salon, hein. On est vraiment un festival, c'est-à-dire que tout le couvent est rempli de tables de jeu avec que des personnes pour vous expliquer les jeux. Il y a un espace de vente, une boutique partenaire, terre de jeu, pour si vous voulez repartir avec un jeu, mais tout le reste vraiment est rempli, donc sur l'espace ludothèque, l'espace jeu libre, c'est des ludothèques, des associations qui vous expliquent, sur l'espace éditeur, c'est des éditeurs. Je le précise parce que des fois on se fait pas trop la différence, et j'ai eu des retours de gens comme ça qui, une fois venus, se sont été surpris, se sont dit « Ah bon, mais je savais pas qu'en fait on pouvait jouer à ce point-là, j'aurais su, je serais venu beaucoup plus. » Et oui, sans payer. En tout cas, c'est prix libre, donc vous donnez ce que vous voulez.
Un événement à prix libre, ce festival Rennes en jeu. Et donc, le jeu qu'on a évoqué, là, les trois mousquetaires, il sera en vente sur le festival, et on donne quand même les noms des créateurs, Serge Macoin, et l'illustrateur, c'est Henri Karmarek, qu'on retrouvera sur l'événement lors d'une conférence.
Tout à fait. Henri Karmarek étant un des auteurs locaux historiques, qui a été un des fondateurs du coup du groupement des auteurs.
Rennes en jeu, ce sont aussi des animations, des tournois, un espace de jeu libre que vous venez d'évoquer. Peut-être qu'on peut quand même recommander un jeu, que ce soit un jeu récent ou un classique, mais pour les auditeurs qui nous écoutent et qui débarquent dans le game. J'ai fait le jeu de mots.
Et dans les jeux vraiment qui ont eu du succès dernièrement, là, dans la catégorie un peu jeu d'ambiance sur le prix de l'animation, il y a Trio, qui est vraiment très chouette. C'est une sorte, on va dire, de jeu de cette famille moderne et qui se joue vraiment à tous les âges. Donc c'est vraiment pas juste pour avec les enfants, même si ça joue très bien avec les enfants. Et donc c'est très très chouette. Ça se joue jusqu'à 6 et à partir de combien ? À partir de 3, si je dis pas de bêtises. Voilà, Trio, qui est un jeu de l'éditeur Cocktail Game et donc avec un auteur Kaya Miyano, que j'ai sûrement un peu écorché, auteur japonais, si je ne dis pas de bêtises.
Il y aura plein d'autres jeux à découvrir durant l'événement, et puis avec des prix qui seront mis en lumière durant le week-end pour récompenser donc des créateurs. Il y a notamment un prix du jeu engagé, a priori c'est assez rare dans le milieu. C'est quoi un jeu engagé ?
Ah, bonne question. C'est tout le challenge de ce jury, qui est composé de professionnels, de gens qui font jouer, de vendeurs de jeux, d'auteurs, de bar à jeux, etc., qui font jouer et qui travaillent dans le jeu pour se demander qu'est-ce qui manque en fait dans le milieu du jeu de société actuellement. Et donc, en effet, il y a, comme beaucoup de milieux, c'est quelque chose qui est encore un peu dans du divertissement. Donc c'est très bien, hein, j'adore jouer pour me divertir, mais en effet, le médium peut aller au-delà de ça, et donc il y a encore trop peu de jeux qui ont un propos, en fait, qui sont vraiment là pour mettre en avant justement tout ce qui va montrer qu'il y a une mise en avant culturelle, une réflexion au-delà juste du divertissement. Les années précédentes, ça a pu être autant des éditeurs pour leur processus écologique de fabrication que des auteurs pour leur engagement, leur propos d'auteur, que là, cette année, par exemple, il y a eu deux jeux primés. Un, c'est Atiwa, de Uwe Rosenberg, édité par Lacaout. Et l'autre, c'est Cory, d'un auteur français, Charlec, édité par Débâcle Jeux. Et là, c'était plutôt par rapport au propos du jeu. Cory, par exemple, qui est un jeu asymétrique, où il y a vraiment la question d'on peut autant jouer le colon anglais que le peuple
natif,
que du coup les animaux au même niveau, en fait les animaux sont au même niveau par exemple que...
Ah ouais, c'est un peu antispéciste, quoi.
Et donc il y a un peu ça, mais sans le prôner de façon ostentatoire, on va dire, quoi. C'est donc en les mécaniques du jeu portent des choses, et c'est un peu une des raisons d'être de ce prix, qui se limite pas à ça, qui se limite vraiment à la question de l'engagement au sens large, donc que ce soit la production, le sens, les mécaniques, l'accessibilité aussi à différents publics, voilà, tout ce travail-là.
Un prix intitulé Lizzie Maggie, on a regardé donc la créatrice de l'ancêtre du Monopoly.
Alors l'ancêtre...
Entre autres choses, elle a fait beaucoup de choses.
La personne qui en fait est à l'origine du Monopoly, et le prix en effet a pris ce nom-là, pour lui faire honneur, parce que c'est donc du coup la personne, donc déjà c'est une femme qui s'est fait spolier par un homme, ce qui est
malheureusement arrivé plusieurs
classique
fois.
Et qui en plus est la personne qui avait fait ce jeu là le Monopoly à la base, pour critiquer justement, il y avait un vrai propos,
la spéculation, quoi.
Voilà, le côté spéculatif, et ça a été repris par quelqu'un qui en effet a totalement détourné, a juste gardé le côté divertissant, et maintenant est exactement l'inverse de pourquoi ça avait été fait à la base.
Julien Alain, on le redit, vous êtes président de la Toile Ludique rennaise, l'association qui porte l'événement Rennes en Jeu. Ça se passe au couvent des Jacobins à Rennes, samedi 3 et dimanche 4 février, à chaque fois de 10h à 18h30. Un événement qui est à prix libre, et pour plus d'infos, il y a le site rennesenjeu.fr, ainsi que la programmation à retrouver en ligne sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Gros doudou, Peace and Tranquility to Earth, c'est le choix musical de Julien Alain qu'on vient de recevoir en studio. Un titre de 98 qui est à retrouver sur l'album Tout l'univers Listener's Digest. C'était le premier disque de ce musicien et DJ français, dont le vrai nom est, je le révèle, Laurent Etienne. Vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute sur le 94.0 pour ce qui est de la FM, mais vous pouvez aussi nous retrouver en direct sur canalb.fr, un site où sont également disponibles en réécoute l'ensemble des émissions réalisées par des salariés et par des bénévoles, puisque nous sommes une association, il faut le redire de temps en temps. On poursuit cette émission avec un reportage. Ce reportage, c'est le cinquième épisode de Dal Kennedy, une série de portraits d'habitants de Villejean, un quartier qui est étiqueté QPV pour quartier prioritaire de la ville, dont la construction remonte aux années 60. Aujourd'hui, il compte plus de 20 000 habitants et parmi eux, il y a Saïd.
Ici, sur la dalle, tout le monde l'appelle Tonton. Peu importe qui ça peut être, dès qu'on le voit, c'est « Ah, Tonton, ah, Tonton !» C'est son nom de la dalle, le Tonton.
Cette série de portraits part d'un constat, la faible place accordée en radio aux habitants de quartiers populaires. Alors toute l'année, je vous propose de les écouter. Épisode 5, Saïd.
Les violences qu'il peut y avoir à l'heure d'aujourd'hui, ça me blesse au plus profond de moi-même. Moi, je n'ai jamais levé de ma vie la main sur quelqu'un. Mon père, dans ma famille d'accueil, m'expliquait qu'il vaut mieux répondre aux imbéciles par le silence. Alors Saïd, 64 ans, retraité, mais un petit peu encore actif.
Ma première question, c'est de vous demander si c'est la première fois que vous êtes interviewé par quelqu'un.
Tout à fait.
Pourquoi vous avez accepté ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la démarche ?
Ben, expliquer un petit peu ce qu'on peut vivre sur le quartier, ce qu'on fait sur le groupe d'entraide.
On se retrouve, on le dit aux auditeurs, on est dans un café tout près de la dalle Kennedy, dans un endroit très passant. Ce quartier, quand est-ce que vous y êtes arrivé ? Pour quelles raisons ? Où est-ce que vous habitez ?
Alors moi, je suis arrivé sur le quartier il y a 17 ans, mais je connais le quartier depuis 30 ans, puisque j'y ai vu le métro se construire. Donc avant, Villejean, cette partie où on se trouve, il n'y avait rien. Ben moi, je suis dans un immeuble, un petit immeuble de copropriété, donc j'y ai ma tranquillité. On a affaire à plus de propriétaires là où je me trouve. On a des étudiants, puisque les propriétaires louent aux étudiants, donc voilà, et l'entente avec eux est cordiale et parfaite.
Et vous êtes dans quel coin du quartier ?
Derrière le Carrefour Market.
Oui, c'est juste à côté, quoi.
Voilà.
Avant Villejean, vous étiez où ?
Au Blône. Après le changement, pourquoi ? Bah parce que j'étais marié à l'époque, et donc comme j'ai divorcé, donc il fallait absolument que je retrouve un logement puisque j'avais la garde de ma fille. Ça n'a pas été tout simple.
De retrouver un logement ?
Non. Bah non, parce qu'il a fallu que je passe par des structures sociales avant d'arriver ici.
Il y a parfois des délais qui sont longs, non, sur des
oui,
logements.
Oui, après, moi je m'estime peut-être de quelqu'un comme chanceux, parce que je n'ai attendu que 8 mois, donc quand j'en vois qui attendent 2 ans ou 3 ans, ou voire plus. Après, quand on m'a fait la proposition du logement où je me trouve, c'est vrai que j'avais pas 50 propositions, j'étais obligé d'accepter celle-là. Donc voilà, après, je me plains pas, je m'y sens bien.
Pour reprendre au tout début, je demande aux gens que je rencontre s'il y a des éléments, on va dire, de leur enfance, de leur jeunesse, qu'ils souhaitent partager aux auditeurs.
Alors, de ma jeunesse, bien, j'ai des bons souvenirs, puisque je suis enfant de la DAS, donc j'ai été sur une exploitation agricole dans la Nièvre, et donc pas sur une petite exploitation, donc sur une exploitation de 500 et quelques hectares. Donc c'est énorme, et j'y ai appris de belles choses. Donc voilà, je viens entre autres de la campagne. J'ai eu du mal à m'habituer à la ville, hein, ça n'a pas été facile. D'habitude, c'est le contraire, les gens partent de la ville pour aller à la campagne, tandis que moi j'ai pas le contraire.
Vous y êtes arrivé quand en ville ?
En 81, 82. J'avais entre 20 et 21 ans. Dans la famille où j'étais, j'ai perdu les deux membres de ma famille, donc ça a été un choc brutal pour moi. Donc, perdu où j'ai erré dans les rues sur Nevers, puisque j'étais dans la Nièvre à l'époque. Donc j'ai erré sans savoir quoi faire, sans savoir... je comprenais pas. Et puis j'ai débarqué en Ille-et-Vilaine, en passant par la Mayenne et pour arriver en Ille-et-Vilaine.
Quels sont les métiers que vous avez occupés dans votre vie, que vous occupez toujours, puisque vous travaillez encore à 64 ans ?
J'ai touché un petit peu à pas mal de choses, à la cuisine, entre autres, en étant pendant 2 ans sur le conseil général en cuisine collective. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans les espaces verts. Et mon plus long parcours que j'exerce encore un petit peu, c'est le nettoyage industriel, où je suis chef d'équipe de 4 à 5 personnes. Aujourd'hui, moi j'ai un poste, on a des chantiers fixes, donc c'est sur un pôle universitaire à Saint-Hélier, qui a ouvert récemment, là, en septembre. C'est une demande de la grande direction de Nantes, puisque j'avais déjà travaillé avec cette société. C'est eux qui sont venus me chercher pour sauver le site, puisqu'ils étaient en train de le perdre. C'est que je me dis que je devais être un bon. Donc, je projette d'accompagner les jeunes jusqu'entre, normalement mai, mais au plus loin septembre.
Avant de partir à la retraite.
Voilà, mais je suis déjà à la retraite. Hein.
Ouais.
On va dire que je fais un complément de salaire qui n'est pas négligeable donc, et qui me permet de vivre normalement.
Mais alors j'imagine que le nettoyage industriel, ça doit quand même être des métiers qui sont fatigants aussi pour le corps, non ? Il doit y avoir de l'usure un peu.
C'est-à-dire que quand on est jeune, tout va bien. Quand on vieillit, c'est un peu plus compliqué. Mais après... Le nettoyage industriel, je vais pas avoir peur du mot que je vais mettre, c'est ingrat. Hein, parce que les trois quarts de temps, les gens ne respectent pas ce qu'on fait.
C'est pas reconnu.
Voilà, c'est pas reconnu. C'est... Bon voilà, que ce soit HLM, pôle universitaire. Après, moi j'ai été spécialisé sur les grandes surfaces. Donc sur les magasins, c'est encore pire.
Comment est-ce que vous appréhendez cette nouvelle période de votre vie, la retraite ?
Pas facile. Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Je ne suis pas monsieur télé, je ne suis pas monsieur fauteuil. Donc, avant de vous rencontrer, j'arrive de l'espace escargot, puisqu'on joue le jeudi à la belote. Donc, j'ai mes petites activités un petit peu sur le quartier. Et le mardi, depuis la période, même bien avant le Covid, où j'ai 3-4 mamies qui viennent jouer à la belote. On a surpassé les règles du Covid, hein, mais voilà. Et en fin de compte, je me dis que je les ai sauvées, ces mamies, parce qu'elles ne seraient plus là aujourd'hui, quoi, parce qu'elles se voyaient perdues. Donc voilà, et puis depuis ce temps-là, on joue à la belote tous les mardis à la maison.
On arrive au quartier de Villejean, donc que vous connaissez bien puisque vous y êtes depuis un moment. Comment est-ce que vous le pratiquez, ce quartier ? Il y a des lieux que vous fréquentez plus que d'autres ?
Centre social, j'y vais pas spécialement, mais bon, les commerces. Après, aujourd'hui, on se retrouve ici. D'habitude, je suis souvent en face. Après, je fais vivre tout le monde. Hein, on a la chance d'avoir un Carrefour Market. Dire que là, on est quand même bien situé puisque... On a presque tous les commerces qu'on veut. Après, ça peut différencier au niveau prix. Mais bon, si on fait le calcul de l'essence, et puis on s'y retrouve. Et puis après, aujourd'hui, beaucoup de gens qui me ressemblent, on fonctionne beaucoup la nourriture avec les dates courtes. Parce que si on veut manger tout aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Et puis, quand on appelle date courte, des fois il y a une marge quand même de 2-3 jours, mais si c'est de la viande et qu'on la passe au congélateur, ben on risque plus rien. Hein, donc voilà.
C'est une préoccupation pour vous, le coût de la vie ?
Oui. Ah oui, 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 oui. Parce que j'écoute beaucoup les informations, on est en train de nous dire que ça va baisser, mais je ne sais pas quand, quel jour, quelle année.
Est-ce qu'il y a des choses ou des achats que vous ne vous autorisez pas
C'est-à-dire que nous, on se prive, et puis sans avoir peur de vous le dire, on ne va pas au cinéma, on ne va pas au restaurant. Je préfère faire un repas amélioré à la maison. Et puis voilà, je reçois ma famille, ma fille, mes petits-enfants. C'est préférable.
Vous avez un plat fétiche, un plat que vous cuisinez beaucoup ?
Le couscous. Ah, le mien, il est royal. Chez moi, il y a tout dedans. Il y a du poulet, il y a de l'agneau et des merguez. Ça, c'est un couscous royal.
Et elle vient d'où, votre recette ?
Alors, mes origines, mon vrai père que je ne connais pas, et ma mère, mon père est tunisien et ma mère est française. Voilà. Mais je ne suis jamais allé en Tunisie. Je ne connais pas. Donc, la seule langue que je parle, c'est le français.
Est-ce que le quartier, vous l'avez vu évoluer depuis que vous y êtes arrivé ? Quel est le regard que vous portez sur ce quartier ?
Le quartier, je l'ai vu calme. À mon arrivée, je dirais pas ça aujourd'hui. Mais après, voilà, j'ai pas pour habitude de m'occuper des affaires des autres.
En quoi il n'est pas calme ? C'est sur l'espace public ?
C'est sur l'espace public. On va rien cacher. On est entouré de dealers.
Ça crée de l'inquiétude ou on
s'habitue ? Oui, oui, parce que on a quand même des appartements qui donnent sur la dalle, donc on voit un petit peu ce qui s'y passe. Donc il y a quelques années, on fermait pas nos portes d'appartement. Maintenant, même moi en tant qu'homme, je ferme derrière moi. Donc malgré moi que j'ai un gros berger allemand.
Voilà. Il s'appelle comment votre chien ?
Wolf.
Wolf, le loup.
C'est vrai qu'avec le chien, personne ne m'approche, donc je suis tranquille. Et puis après, moi je m'occupe pas, une fois que je suis rentré. Quoi, voilà. Après j'aime bien tout le monde. Hein, et puis après je me dis c'est leur problème quoi. Mais bon, c'est inquiétant pour les jeunes à venir qui vont venir par la suite.
En mettant votre lieu de travail à part, vous passez l'essentiel de votre temps sur le quartier ou vous faites des activités ailleurs dans la ville de Rennes ?
Non, alors il y a des moments où je me retire chez ma fille qui a la chance d'habiter en campagne, donc je m'y retrouve un petit peu. Donc je vais garder mes petits-enfants. Voilà, les papis, ça sert à ça. Je vais faire quelques bricoles chez eux, il y a de la pelouse à tondre, donc ça me va très bien. Et puis après, je suis beaucoup sur le quartier, alors avec l'espace escargot. Depuis la mi-juillet, on a ouvert un local qui s'appelle le Café du Dimanche. Donc ça, c'était pour une demande des habitants du quartier, puisque le dimanche après-midi, il n'y a rien sur le quartier. Donc c'est un peu pour rompre l'isolement. Voilà, ça nous permet de nous retrouver autour d'un café, d'un thé, d'un gâteau. Voilà, c'est convivial, c'est un lieu convivial.
Depuis quand vous êtes donc dans ce tiers-lieu qui s'appelle le SS Cargo, un tiers-lieu avec des habitants, il y a aussi des étudiants qui y passent. Vous y êtes depuis quand ?
Je dois attaquer ma troisième année.
C'est la première fois que vous êtes engagé dans une association comme ça ?
Oui, parce que je voyais la retraite arriver. Donc, et puis le service d'entraide, ça veut dire que ça veut dire je te rends un service, tu me rends un autre service, il n'y a pas de passage d'argent. Donc voilà, moi depuis que j'y suis, je suis allé rendre service à pas mal de gens.
Quel type de service ?
Voilà, aller réparer des tuyaux de douche, faire de la peinture. Il y a une dame entre autres, on a passé pas mal de temps chez elle pour refaire de la peinture, de la tapisserie. Voilà, je suis quelqu'un qui est très bricoleur, donc voilà.
Est-ce que vous avez bénéficié de services ?
Non, parce que j'ai pas trouvé ce que les gens pouvaient me rendre comme service.
Est-ce qu'il y a peut-être des amitiés qui se sont nouées dans ce groupe d'entraide, des gens que vous voyez plus que d'autres
Oui, entre autres Simone. Mais Simone, je vais prendre le café chez elle tous les dimanches. Ça, c'est très intéressant.
On peut lui passer le bonjour.
Oui, Simone, un grand bonjour à Simone. Hein, je vais prendre le café chez elle depuis 11 ans le dimanche matin.
Donc Simone donc, habite dans le quartier, on l'a entendu dans un épisode de la série. Dure.
Et puis, je suis quand même pas mal connu sur le quartier. Hein.
Comme bricoleur, quoi.
Oui, comme bricoleur, comme en amitié aussi, parce que voilà, moi, il est très important quand je rencontre quelqu'un qu'on se dise bonjour. Si on ne me dit pas bonjour, je ne suis pas de bonne humeur.
J'aime bien demander aussi aux gens que je rencontre s'il y a une œuvre culturelle, un film, un livre, une chanson, un artiste qui vous a marqué dans votre vie.
Alors, moi j'étais un passionné de Johnny Clegg parce que Johnny Clegg avait fait une chanson pour Nelson Mandela. C'est Assez Boulanga. Et l'apartheid, c'est plus ou moins le raciste en France. Voilà.
Par Beyrouth sur Canal B, c'est une nouveauté musicale, ou presque, un titre à retrouver sur l'album Hate Soul qui est sorti au mois de novembre 2023 chez Pompeii Records, un 12 titres qui signe là le retour de ce groupe mené par l'américain Zach Condon, après 4 années décrites comme fatidiques pour ce musicien qui avait perdu sa voix, mais la revoilà sur Canal B. Vous êtes dans l'arène et c'est vendredi, jour de newsletter, puisque je n'évoque plus le programme programme de l'émission sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner au Courrier de la Reine, un petit document que je vous envoie chaque vendredi pour mettre en lumière des reportages, des interviews, des infos qu'on a évoquées dans cette émission. Et pour s'inscrire, ça se passe par email à mon adresse lucie@canalb.fr. Pour la recommandation du jour, on annonce rapidement deux idées de sortie pour le week-end, samedi 3 et dimanche 4 février. Il y a d'abord le Festival des films positifs cinétiques qui va vivre sa 16e édition à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, tout près de Rennes. 14 films seront projetés sur les deux jours, des films documentaires, des films d'animation avec beaucoup de propositions pour le jeune public et en plus de ça, une exposition, une rencontre littéraire et d'autres choses à voir dans le détail sur le site déclic-éthique.fr. Le deuxième événement, c'est un après-midi autour de la chauve-souris, dimanche 4 février de 14 à 17h. Une proposition de l'écomusée de la Bintinet qui accueillera une balade contée, une exposition et puis de la médiation avec l'asso Bretagne Vivante. Et un événement qui est en fait organisé en partenariat avec l'Opéra de Rennes qui accueillera sur les coups de 16h, donc en centre-ville, une représentation de chauve-souris. Le détail, c'est à voir sur le site écomusée-rennes-métropole.fr. Avant de se quitter, quand même, je vous propose d'écouter un dernier contenu. C'est le troisième et dernier épisode d'un podcast réalisé en partenariat avec la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement. Ça fait en fait suite à une conférence qui a été organisée il y a quelques semaines en compagnie de Claude Martin qu'on écoute. Faites comme si, pas comme ça. L'idée d'éduquer les parents à exercer leur propre rôle n'est pas nouvelle, mais avec l'émergence de la notion de parentalité au XXe siècle, un nouveau souffle a été donné à cet enjeu politique et social. Alors, comment se repérer face à des injonctions et des politiques parfois contradictoires ? La ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement ont invité Claude Martin pour un podcast en trois parties. Il est sociologue, spécialiste des politiques de soutien à la parentalité. Épisode 3, les parents face aux controverses.
Chacun sait, parce qu'il a sous les yeux, dans la presse, à la télévision, à la radio, que le conseil aux parents, parce que c'est un marché, ce sont des parts de marché, donne lieu à des mobilisations absolument considérables. J'ai parlé de la presse family, j'ai parlé des grands succès de presse. Il est bien évident que ce marché n'a pas nécessairement des messages complètement homogènes. Il est même fréquent qu'il y ait des messages contradictoires, purement et simplement. On a eu un épisode comme celui-là en France récemment, c'était durant l'été, et on a entendu soudain parler d'experts qui s'opposaient frontalement entre celles qui défendaient une bienveillance érigée en dogme pour lutter contre toutes les formes de violence ordinaires, et puis d'autres experts qui, en revanche, disaient oui, mais cette vision de la parentalité positive tout entière organisée autour de bonnes conduites, de bienveillance, elle fabrique des parents qui ne sont pas du tout rassurés, elle fabrique plutôt des parents inquiets, ils remplissent d'ailleurs un certain nombre de cabinets de cliniciens. Et il faut savoir, pour des parents, mettre des limites. Et mettre des limites, ce n'est pas une violence, c'est une façon de laisser l'enfant se construire. Et on a entendu, pour beaucoup d'entre nous, pour la première fois, parler du time-out. Le time-out, qui est plutôt utilisé dans le domaine sportif, est aussi utilisé en psychologie pour dire « oui, il faut limiter un enfant et il faut savoir l'envoyer dans sa chambre quand il est insupportable ». Le versant parentalité positive disait « voilà le début d'une violence ordinaire, on commence par ça ». Et plus tard, c'est la claque. Et plus tard encore, ce sont des violences encore beaucoup plus graves. D'une certaine façon, une sorte d'échelle de la malveillance parentale qui commence par envoyer dans le coin ou envoyer dans la chambre, punir. Donc ce genre de controverse, les parents, ils sont obligés de se dépatouiller avec, hein, parce qu'ils ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Alors certains ont beaucoup de bon sens et disent, voilà, moi je sais, ça dépend des contextes. Oui, j'ai déjà mis une fessée à mon petit, une petite fessée, ça n'est tout de même pas si grave que ça. D'autre part, si on était fatigué et qu'on regrette de l'avoir fait, on s'excuse, un enfant est capable de comprendre. Donc il y a beaucoup de parents qui ont du bon sens et qui trouvent leur chemin. D'autres, en revanche, finissent par se demander qui il faut suivre. Et donc ça, je pense que c'est une bonne image de ce qui, dans le domaine de la parentalité, reste un peu indécidable parce qu'on ne fait pas confiance aux parents. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit des parents inquiets. Ça produit un système anxieux, ça produit des parents qui ont toutes sortes de raisons d'être inquiets de la réussite de leur enfant, alors que, évidemment, tous les parents veulent le meilleur pour leur enfant, hein. Mais ils ont aussi des contraintes, c'est-à-dire que la condition des parents n'est pas homogène. Il y a une condition parentale comme il y a une condition sociale. On ne vit pas tous dans les mêmes logements, on n'a pas tous les mêmes horaires de travail, on n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous des parents avec deux parents. Il y a beaucoup de variations. Et on n'a pas tous les mêmes cultures parentales, puisqu'on peut avoir connu une trajectoire de migration qui fait que le monde d'où l'on vient n'est pas le monde où l'on arrive du point de vue de ces cultures de parentalité. Les cultures de parentalité des couches moyennes éduquées françaises aujourd'hui ne sont pas celles d'un réfugié syrien ou d'un réfugié afghan qui débarque en France et qui découvre un monde qu'il ne connaît pas de ce point de vue. Donc il faut avoir conscience de cette variété pour essayer d'être en accord sur un certain nombre d'éléments de base sur la parentalité. Et pour cela, il faut ne pas avoir une vision comportementale et individualiste, il faut avoir une vision collective, il faut avoir une vision générationnelle. On le sait en réfléchissant 5 secondes, mes parents nés en 26 par exemple, n'avaient pas la même condition parentale que la mienne, qui a eu moi mes enfants dans les années 80-90, ça n'est quand même pas le même monde. Nous n'avons pas eu les mêmes contraintes. Et je ne parle même pas de nos conditions économiques, je ne parle même pas de nos conditions d'habitat et de nos horaires de travail respectifs. Mais on sait que les choses bougent dans le temps, bougent dans l'espace, et qu'il faut avoir une conscience de cette dimension culturelle, et pourquoi pas planétaire, de ce que sont ces variations. Donc on ne peut pas avoir une politique de la parentalité qui donne les clés de la maison, si j'ose dire, à des experts qui ne sont même pas d'accord entre eux. Il faut faire confiance davantage aux parents et il faut avoir conscience qu'en effet, ils sont anxieux, par exemple, dans leur relation à l'école. L'école est en France un problème. Quand on regarde les différentes publications des enquêtes PISA, non seulement nous avons un problème de performance à l'école au regard du niveau d'investissement d'argent public dans nos politiques éducatives, mais nous avons aussi un problème de bien-être des enfants à l'école. Les enfants ne se sentent pas toujours très bien à l'école. Et on a des symptômes d'une certaine façon. Hein. On parle de la phobie scolaire, on parle des enfants qui sont en retrait social à l'intérieur de leur chambre. On parle de problèmes émergents qui sont le résultat de ce système anxieux. Des parents anxieux pour leurs enfants qui eux-mêmes sont anxieux de ne pas performer à l'école suffisamment. Et des enseignants qui sont eux-mêmes anxieux d'un niveau de performance qu'il faut garantir pour tous les enfants de la classe. Donc ce triangle de communication est un système qu'il faut essayer de soulager, de rendre plus fluide, moins brutal. Et sans doute que ça n'est pas simplement en durcissant, on pourrait dire, les normes de pratique, de conduite et de comportement. Il faut avoir un débat qui est politique, qui est collectif, qui est public, sur ce que la génération des adultes aujourd'hui pense pour la génération de demain, comme on dit, avec le monde qu'on leur laisse.
À travers son projet éducatif local, Rennes a l'ambition d'agir pour que chaque jeune puisse réussir et s'épanouir, quel que soit son quartier et son origine sociale. Tous les ans, la ville de Rennes et la Ligue de l'enseignement d'Ille-et-Vilaine proposent des rencontres au public pour échanger sur l'éducation. Plus d'infos sur métropole.rennes.fr/éducation. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.